Beggar's Wall.
Original de Julien Jean-Pierre. Dernier souvenir d'enfance. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.
En allant se coucher, se dit que la semaine qu'il a passée n'était qu'un mauvais rêve, et qu'il ne faut plus y penser. Les vacances sont là, il faut qu'elles durent le plus longtemps possible, et surtout se jurer qu'à la rentrée, on ne doit pas retourner dans l'entreprise. Un matin, Gilbert se réveille à 9h. La chambre baigne de soleil et cela lui fait plaisir. C'est la lumière du matin qu'il connaît depuis son enfance. Il soupire d'aise et se lève. Son petit frère dort encore. Ses parents doivent être encore dans leur chambre. Il sort de sa chambre. Longe couloir qui est encombré de paquets et valises que sa mère a fini avant d'aller se coucher. Il va à la cuisine prendre du sucre. Le sucrier se trouve dans le buffet en bois blanc. En réalité, le sucrier est une boîte en métal où se trouvent des fleurs peintes dessus. Il a faim, mais comme il ne sait pas se servir de la cuisinière pour faire chauffer le lait, il ne peut pas prendre son petit déjeuner. Il met dans sa poche 5 sucres et 2 dans sa bouche, puis remet le sucrier en place. La porte de la cuisine s'ouvre. Sa mère, en chemise de nuit toute blanche.
Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu manges encore?
du sucre. Tu ne pouvais pas attendre, non, que je te prépare ton petit déjeuner. Je vais te le faire. Va t'habiller. Oh, et regarde-moi ce pyjama. Tu l'as encore jauni. Tu ne peux pas faire attention, non? Tu vas tomber malade en faisant ces choses-là. Je t'ai encore entendu cette nuit. Tu es resté longtemps au cabinet. Gilbert est tout rouge. Elle a une façon de parler de cela. Même quelquefois, elle lui en parle devant tout le monde. Vous posez de questions sur ces choses-là? En plus de ça, elle réprimande. Gilbert sort de la pièce. Deux heures plus tard, toute la famille est prête pour partir. Gilbert a remis son short. Cela le rend heureux et en même temps triste. Car malgré tout, il a honte de montrer ses jambes. Et puis, cette façon que l'on a de le traiter tantôt en homme, tantôt en enfant, il a l'impression de prendre une douche écossaise. Toute la famille est dans le couloir. Ils attendent l'oncle qui doit les mener avec sa voiture au motier. L'on sonne à la porte. Mère ouvre. C'est l'oncle. Salut la famille, vous êtes prêts? L'oncle est le frère de sa mère. Il est grand, un peu fort, avec une moustache et semble toujours rire. Il est habillé d'une veste en velours côtelé marron et d'un pantalon bleu.
Oui, nous sommes prêts, dit la mère.
Alors, on y va, parce que si vous voulez arriver en début d'après-midi...
Le père et la mère prennent des valises, Gilbert et son frère, un carton chacun. La voiture de l'oncle est une vieille à ronde verte. Après avoir mis les bagages sur le porte-bagages, ils partent. La mère s'est assise à côté du conducteur, le père et les enfants derrière. Gilbert n'aime pas la voiture, il la craint. Ça lui donne envie de vomir. Il en a honte. Pour se distraire, avec son petit frère, il a amené un jeu de cette famille. Les cartes de cette famille le font rêver et penser aux gens qu'il côtoie. Famille bistroquet, épicier, boucher, etc. La ville suit la nationale 7 direction Grenoble. Il n'y a pas trop de circulation. Les salariés n'ont que 3 semaines de congés payés et les jeunes 4. Les gens pour la plupart restent chez eux. Les journaux, la radio, la télévision ont beau dire. Ce n'est pas la masse qui part en vacances. Cela coûte cher et aller où? L'habitude n'était pas encore prise de partir en vacances comme cela dans des endroits et chez des inconnus. Non. Si l'on part, c'est pour retrouver un parent qui est resté cultivateur. trajet, Gilbert a retrouvé son insouciance d'enfant. Il est heureux de retrouver la campagne. Il aime la nature et quelquefois il passe des heures à regarder les fourmis. L'homme Thiers, qui se trouve à 60 km de Lyon, est un petit village de 150 habitants, tout en longueur, avec au pied d'un coteau où se trouve un château en ruine. La maison où ils vont habiter pour les vacances se trouve en retrait du village, au pied du coteau. C'est une ancienne ferme d'un étage dans une cour. Elle n'est pas très grande. Au rez-de-chaussée, la pièce principale avec une cuisinière à charbon et une chambre, et à l'étage, deux chambres. Le premier jour se passe bien. Gilbert joue avec son petit frère dans la cour et au jardin. Il fait très chaud et vont souvent boire à la fontaine qui se trouve dans la cour. Il doit faire attention aux serpents. Gilbert aime faire du jardinage avec son frère. Il plante des haricots. Le dimanche, la famille va à l'église. Ce n'est pas comme à la ville, les hommes et les femmes sont séparés. Quelquefois vient leur rendre visite une femme étrange. On l'appelle la Pelagie. C'est un peu la sorcière du village. Elle lit l'horoscope, le marc de café, prie les étoiles. Elle est maigre, sale, tout habillée de noir. Gilbert ne l'aime pas car elle sent mauvais. Mais c'est une brave femme que les gens du village profitent. On lui donne quelques troupeaux de chèvres à faire garder ou des vaches pour 2 francs et un bol de soupe. Elle vient souvent à la veillée et parle de sa jeunesse au temps où elle habitait l'Italie. Cela distrait la famille. Lorsqu'il fait trop chaud pour bouger, Gilbert va s'asseoir au pied du poirier qui est le seul arbre du jardin et lit un livre de la série Lecture et Loisirs. Il adore Dickens. Un jour, sa mère lui demande d'aller chercher quelques courses à l'épicerie du village, seulement début d'après-midi. En entrant dans l'épicerie, qui est sombre et sans le moisi, il voit son comptoir l'épicière, qui est une grosse vieille femme habillée d'une blouse noire. Se trouve un garçon d'une douzaine d'années, blond, mince, le visage fin. Il porte une chemise et un short blanc qui montrent de belles jambes fines.
« Je n'ai pas ce que vous demandez. »«
Mais c'est du beurre que je veux. »«
Non, je n'ai pas cela ici. »«
Vous n'avez pas de beurre ?»«
Non. »
Gilbert s'approche. Elle est sourde. Vous écrivez ce que vous désirez, vous vous servez. Merci. Le garçon prend un papier sur la banque. Avec un stylo, il marque le mot bord et le présente à la femme.
Oh oui!
Elle va dans l'arrière-boutique. Et ramène une tablette de bord. La donne à l'enfant, l'enfant paye.
Merci.
Et le jeune sort du magasin en lançant un sourire à Gilbert. Gilbert, après avoir fait ses achats, sort d'épicerie. Il retrouve le jeune garçon.
Je te remercie pour ton aide.
Ce n'est rien.
Tu es d'ici?
Je suis en vacances, j'habite Lyon, et toi?
Moi, Paris, je suis ici pour tenir compagnie à ma grand-mère qui est malade.
Tu habites où au village?
Là. J'accompagne.
Gilbert est tout heureux d'être accompagné par ce jeune garçon. Avec lui, il ne se sent pas du tout intimidé.
Tout en cheminant, ensemble, ils font connaissance.
Je m'appelle Denis.
Moi, c'est Gilbert.
Tu es ici pour combien de temps?
Jusqu'à la fin du mois.
Moi aussi. Arrivé devant la ferme, ils se disent au revoir.
Denis lui dit,
si tu veux, on peut se revoir?
Moi, je veux bien.
Demain, 10h devant l'église.
Oui.
Gilbert est tout heureux de cette fin à l'ami. Et quel ami? Un beau et charmant garçon. Il est plus jeune que lui.
Cela l'ennuie un peu, mais puisque c'est lui qui a voulu.
Demain, à 10h, il retrouve son jeune ami. Il passe sa journée à courir dans la campagne. Lorsqu'il fait très chaud, en début d'après-midi, ils vont s'étendre sur une meule de foin dans une grange.
Denis lui dit, moi plus tard je serai médecin.
Moi je ne sais pas.
Que fait ton père?
Mon père?
Il a les produits chimiques.
Dit Gilbert.
Un jour, Denis invite Gilbert chez sa grand-mère, qui habite une petite maison au fond d'un jardin.
Tout y est délicieusement bon et beau. Lorsque l'on rentre dans la maison, l'on sent la lavande et une douceur vous envahit avec ce décor d'un autre monde, d'une autre époque. Des meubles en bois ciré, des doubles rideaux à fleurs. La grand-mère est une petite femme maigre qui sourit toujours, est assise dans un fauteuil près de la fenêtre et du piano droit, un livre à la main. Et les enfants jouent aux dames à ses pieds. Cette douceur, cette lumière fait rêver Gilbert. Il aimerait toujours rester là avec son ami. Gilbert est un contemplatif. Il rêve éveillé. Un décor, un visage éclairé d'une certaine manière par les rayons du soleil, le met dans un état d'émerveillement divin. C'est ce que lui fait le visage de Denis lorsque les rayons du soleil illuminent son visage. Il passerait des heures à le regarder. La mère lui reproche qu'il n'est jamais avec eux.
« Mais qu'est-ce que tu as à toujours courir ?»«
Rien, je m'amuse. » Elle hausse ses épaules. Il est vrai, c'est que pour Gilbert, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est d'aller courir avec Denis. Il est pris d'une joie, d'une ivresse, telle qu'il a tout oublié. Ensemble, vont, viennent, jusque vers la maison.
Tu n'as pas honte de jouer comme un enfant, à ton âge ?
C'est sa mère qui vient de crier. Cela l'arrête d'un coup. Il a honte. Il s'assoit devant la maison. Elle capare. Denis s'approche de lui et lui dit :
Viens. Non.
Il a envie de pleurer. Sa mère lui dit
« Nous rentrons demain matin. Tu commenceras à ranger tes affaires. »
Ne pensez plus au retour. Mon Dieu, Lyon, l'entreprise. Adieu Denis, adieu le coteau. Il est effondré. Après avoir mangé, il monte à l'étage. Prend sa valise qui est dessous le lit, la met sur le lit et l'ouvre. Il ne pensait pas la revoir de si tôt. Après avoir rempli sa valise, il s'est couché. Ne pas sommeil, pense à Denis. Il ne verra sûrement plus. Le lendemain matin, toute la famille se lève à 7h pour faire les préparatifs. L'oncle viendra les chercher en début d'après-midi. Dans la matinée, en cachette de sa mère, il se sauve pour aller dire au revoir à Denis. Il est allé chez la grand-mère, qui lui a dit qu'il est dans la grange. Gilbert y va. Il appelle Denis. Il entre, il y fait sombre. La grange est désinfectée, il n'y a plus que quelques outils. Denis, je suis en haut. Je suis en haut. Gilbert monte à l'échelle. Un peu tremblant, là, il retrouve Denis assis sur une montagne de foin. Il se voit à côté de lui. Denis s'allonge. Gilbert se penche légèrement vers lui. Il est troublé. Cette odeur, cette lumière, tenue près de lui, allongé, si beau. Les mots sont ridicules pour dire ces choses, comme on les sent avec son âme. Premièrement, je suis venu te dire au revoir. Tu pars? Oui, cet après-midi. Gilbert s'allonge à côté de Denis. Se blottit sur lui, d'un geste brusque, elle lui dit « Je ne veux pas que tu partes. » Gilbert sent l'odeur de ses cheveux, il est pris de vertige et lui caresse ses cheveux. « Je ne veux pas que tu partes. » « Moi non plus, mais j'y suis obligé. » « Pourquoi ? Il est tôt, les vacances ne sont pas finies. » « C'est mes parents. Je ne peux pas rester longtemps, tu sais. Ils m'attendent. » L'enfant s'est blotti encore plus fortement contre lui. Gilbert, tristement, se dégage et se lève. L'enfant aussi. Au revoir, Denis. Denis lui saute au cou et l'embrasse. Gilbert est tout ému. Reste l'un devant l'autre sans se parler. Puis, il quitte la grange sous les yeux de Denis en pleurs. Arrivé chez lui, c'est à panique. La voiture de l'oncle est devant la maison. Il vient les chercher. Lorsqu'il entre... Il les retrouve tous à table. Il s'assoit à sa place.
Où étais-tu ?
Il demande sa mère. Je vais aller dire au revoir à un ami. Elle hausse ses épaules.
Pendant que monsieur fait des mondanités, nous nous étions inquiets. Tu n'es qu'un égoïste. On avait raison de me dire que tu étais une tête de cochon.
Elle se soulève et le gifle.
Que te prendra à partir comme cela ? Tu n'as même pas dit bonjour à ton oncle, qui a la gentillesse de nous ramener.
Gilbert honteux et rouge.
À ton âge, on n'agit pas comme un gamin.
Toujours la même chose, douche chaude, douche froide. On le prend pour un homme et on le traite comme un enfant. Après le repas, qu'il a pris sans appétit, l'on est parti. Direction Lyon. Ça fait drôle de rentrer de vacances en plein été. Toute la nature, le ciel, le soleil, vous crient de rester, que la fête de l'été n'est pas finie. Gilbert aimerait que l'on rentrât jamais. Ah, si l'on pouvait avoir un accident, ou que Lyon soit à feu et à sang, que l'on soit obligé de retourner. Mais non, Lyon est là, toujours le même, tel qu'on l'a laissé. On n'est pas parti suffisamment longtemps. Les arbres ont encore leurs feuilles, les panneaux publicitaires n'ont pas eu le temps d'être changés. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble. Gilbert n'en croit pas ses yeux. Déjà, rien n'a été fait. Demain, mon Dieu. Non, ce n'est pas possible. Demain, l'usine. Lui qui s'était juré qu'il n'y retournerait plus. Mais comment faire? Demain, c'est dans quelques heures. Il faudra un miracle. Mon Dieu, faites-le pour moi. Arrivé dans l'appartement, des affaires rangées. Les pièces aérées. On retrouve son cadre, ses dimensions. Avant d'aller se coucher, sa mère lui a mis dans un sac en plastique sa blouse grise, sur une chaise, dans sa chambre, le pantalon long et une chemise polo grise. La chaise est en face de son lit. Durant toute la nuit, il verra ses vêtements qui lui rappelleront l'usine. Après une nuit d'angoisse, courte. Il se lève, les jours ont diminué et il fait nuit. Arrivée dans son atelier, elle ne le reconnaît plus. Il y a plus de monde. Tous les gens sont revenus. Je ne me souviens plus qu'il y ait tant de machines. S'aperçoit qu'il y a des jeunes garçons et jeunes filles. Lors de sa première semaine, ils étaient en vacances. Gisbert ne sait pas pourquoi, mais les jeunes de son âge l'intimident plus que les anciens. Avant que la sonnerie ne retentisse, pour la reprise du travail, les jeunes parlent, chahutent entre eux. On se passe, salue les copains. Chacun et chacune parle de son ou ses idoles. La majorité de la jeunesse à cette époque commençait à travailler à 14 ans. Ils travaillaient autant que les adultes et malgré la législation, faisaient 60 ou 65 heures d'heures par semaine. Mais ils étaient moins payés que les adultes. Leur rêve, c'était d'avoir un TEPAS, électrophone, mono, qui faisait 45, 33 et 75 tours. Regardait juste pour acheter des têtes de bois. La radio était appréciée. Les chanteurs de cette époque chantaient français et les chanteurs étrangers n'avaient pas beaucoup de côtes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire maintenant. Voilà la jeunesse que Gilbert avait près de lui. Gilbert est trop timide, il ne se sent pas comme eux. Alors, il se replie sur lui-même. Certains jeunes essayent de lui parler, mais ils sont déroutés par ce garçon à l'air si grave et qui ne parle pas. Les jours passent. Gilbert est de plus en plus déprimé. Mais que faire contre cette réalité? Rêver, c'est ce qu'il fait. Un jour, il a fait une grosse bêtise. Il a mis des boulons de travers. Julot était furieux. Gilbert a pleuré. Tu es complètement con. À quoi tu penses? Gilbert est rouge de honte. Il aimerait partir. Julot le quitte. Gilbert n'a plus envie de travailler. Il aimerait mourir. Le lendemain, il revient, déprimé, après une nuit blanche. Julot ne lui demande plus que du travail simple et le surveille. Cela déprime encore plus Gilbert. Maintenant, Gilbert aime le trajet qui le ramène à la maison, car il s'est aperçu que c'est son seul instant de liberté entre les contraintes de l'usine et celles de la maison, il peut rêver en paix, rêver d'un avenir meilleur. Chez lui, il ne parle pas. Parler de quoi? De son travail? Il n'en a pas envie. De ses rêves? Qui pourrait les comprendre? Alors il se tait. Au travail, c'est la même chose. Les vieux ne parlent que de choses qu'il a entendues 100 fois, et les choses de choses qu'il ne peut avoir. Un jour, le chef du personnel et Julot mènent Gilbert dans un autre endroit pour travailler. Julot s'est plaint du travail de Gilbert. Alors, ils ont décidé de le mettre dans une autre chaîne. Là, Gilbert doit faire briller des chromes, des poussettes. Ce travail lui plaît moins que l'autre. Un autre jour, la direction a accompagné tous les jeunes pour leur annoncer que les cours de la Chambre des métiers reprenaient. Gilbert est tout ému. Il ne s'attendait pas à cela. Une semaine plus tard, il reprend son cartable avec étonnement. Durant les cours, Gilbert est surpris par les jeunes qui chahutent sur les choses sexuelles. Cela le fait rougir et il a honte car il ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Et en même temps, il se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'est pas attiré par les filles, mais un garçon blond et beau, de son âge bien sûr. Il n'ose pas lui parler, il le regardait en face. Il ne comprend pas pourquoi il a été attiré par lui. Il se dit qu'il doit être le seul au monde à ressentir cela, ce qui le fait encore plus se replier sur lui-même. À cette époque-là, il vit comme dans un brouillard, un rêve.
Tant chaud, la mère Michel.
Ouais, ben...
Ouais,
dimanche, il passe toute la journée chez ses parents, à préparer ses cours ou à regarder la télévision. Les jours de fête, il ne fait rien. Il n'a pratiquement pas d'argent de poche et ne peut sortir seul, sauf pour aller travailler. Certains jours de fête, on le fait travailler. Car il y a beaucoup de commandes. Année triste, solitaire, où le seul rêve de Gilbert, c'est d'avoir un ami. Ces souvenirs me donnent le cafard, l'angoisse, la nausée, comme lorsque je vivais, et pourtant, il y a de cela 29 ans. Un jour, sur le chemin qui le mène à son usine, il est accosté par Didier, son ami d'école. Gilbert a honte que son ami le voie et qu'il voie ce qu'il est devenu. « Salut mon vieux, que je suis heureux de te revoir. À la rentrée, on a appris que tu travaillais. C'est bien ça. Félicitations, c'est chouette de travailler. J'aimerais être à ta place, moi. » Gilbert ne dit rien, mais pense.
Thank you.
Il est seul, toujours seul, dans un monde gris. Est-ce de sa faute ou est-ce de la faute de la société? On le traite de tête de cochon parce qu'il ne répond pas alors qu'il est trop timide. De trop sérieux alors qu'il est rêveur. On dit que rien ne l'intéresse alors que ce qui l'intéresse est inabordable pour lui.
Je pense.
Il y a des barricades, mais c'est qu'il y ait des groupes aussi qui discutent politique, des groupes qui se connaissent politiquement, qui seront après les noyaux des autres manifestations. Et ça, ça se fait pas si on a la rage de dépaver. Ça, il faut l'expliquer pour lui.
Et Denis,
allez faire votre réunion.
Allez faire votre réunion.
Écoute.
Oh.
Écoute, les résultats.
Mais filez-moi la sono, putain, je peux pas faire toutes les barricades sans sono.
Tout le monde écoute.
Tout le monde écoute.
Mais non, mais c'est pas le problème. Pour les bouts de la barre, les bouts. Les mecs,
comment c'est là-bas?
Il faut. Il faut des types. Il faut des types aux barricades qui sont à côté de la mouffe là-bas, tout autour.
Il y a les barricades à la mouffe.
Est-ce que la population va donner à bouffer aux gardes demain matin? Si la population donne à bouffer aux gardes, c'est terminé les gars. Et là, ça va bien pour moi. Je m'excuse, c'est peut-être un peu brutal quand je dis ça, mais ça n'est pas la réponse. Pour moi, c'est le gouvernement par terre.
Les gens qui ont allumé leur radio, c'est fantastique. Oui,
c'est assez inouï comme climat. Hein.
C'est fantastique.
C'est assez inouï. C'est pas une...
Ça, si tu veux me demander quelque chose, c'est 2 heures. Hein. Mmh. Hein, si tu veux me demander quelque chose, je viens parler. Alors là, je parlerai en mon nom personnel.
D'accord.
C'est bon, c'est lui, j'ai quitté.
Dans deux heures, si tu veux, on se donne rendez-vous vers Saint-Michel.
D'accord. Hein? On peut descendre par là déjà.
J'ai l'impression que c'est pas... J'ai l'impression que de toute façon, si ça chie, ça chiera partout.
Ah oui,
c'est pas toi ici.
Si il chie, c'est plus con. Hein.
Bon, tu sais, les barricades, il y en a partout. Hein.
C'est ainsi que les années 60 se terminent.
Oh, voulez-vous vous lever sur 5-6 derrière de façon à ce que les flics ne voient pas ce
attention, il y a les caméras qui ont le godard. Hein. Ah non, pas de caméras, pas de bidon, des trucs comme ça. Hein. On ne pose pas pour la tête. Pour les trucs qui ont vendre rappel. Vous permettez
Camarades, partout, dans tout le quartier latin, il a été construit des barricades. Je crois que je veux pas engager à la bagarre. Je crois qu'on est appelé à passer la nuit.
C'est tout, merci, Seigneur, déjà. Et pourquoi pas comme ça?
Attends. Je crois qu'on a intérêt. Je pense pas qu'on ait intérêt à chercher la bagarre.
On ne veut pas la chercher, on la trouve.
Je crois que nous avons tous intérêt, non pas à chercher à la bagarre, mais à chercher à se défendre. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes...
Une barricade! Non.
Avec quoi? Laissez continuer là!
On n'est pas vu une rue, il y en a pour 30 secondes.
Oui, je sais, oui. Et après, la barricade, c'est nous la barricade!
Oui, alors là...
C'est nous la barricade! Ainsi!
Maintenant, rue Saint-Jacques également, les grenades offensives explosent. ce n'est qu'un début, toujours continuons le combat au milieu de la terre. Elles illuminent tout le boulevard. Il est 2h35 de la nuit. Et brusquement, la lumière s'éteint sur le boulevard Saint-Michel. Par le boulevard Saint-Michel, peut-être même les autopopes entreraient en action, je ne sais pas. C'est rue de l'attaque.
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Dernier souvenir d'enfance. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement C.V.R.